On va laisser la place maintenant au professeur Manuel Bouvard, chef de pôle de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier Charles Perrins, qui va nous parler d'une période effectivement un peu complexe, le passage de la minorité à l'âge adulte, maintenant, qui est une problématique spécifique, effectivement, dans la psychiatrie.
Bon, merci à vous. Je vais essayer d'être bref. J'imagine que vous devez être fatigué de cette fin de journée. Merci à la DESME de cette invitation et puis de cette occasion d'échange. Alors, je vais commencer par une anecdote pour situer la complexité de mon intervention. J'avais un enseignant à l'université. Il passait la première demi-heure de son cours à dire « comme vous allez le voir plus tard ». Et la deuxième partie de son cours à dire comme nous l'avons vu précédemment. Et je me dis, c'est peut-être ça la transition, c'est un peu l'enfance à qui on dit tu verras quand tu seras grand et l'adulte, souviens-toi quand tu étais petit. Ce qui montre que la question de la transition, c'est une question complexe. Et on a déjà abordé, donc je vais dire comme vous l'avez vu précédemment, on a déjà abordé les dispositifs d'organisation. Moi, je vais juste essayer de questionner avec vous deux, trois questions autour de cette question de la transition de l'enfant à l'adolescent. La première chose, c'est des questions de termes. Vous voyez, le titre qui m'avait été donné, c'est le passage de la minorité à l'adulte, ce qui est deux termes qui ne se correspondent pas, puisque le terme de minorité ou de mineur, c'est un terme juridique. Le terme d'enfant, c'est un terme socio-biologique, le terme d'adulte aussi. Donc, on ne passe pas de la minorité à l'âge adulte, on passe de la minorité à la majorité. Et ça se passe à 18 ans. Par contre, on passe de l'enfance à l'âge adulte, et ça prend 25 ans. En moyenne. Et certains n'y arrivent pas forcément. Donc ça veut dire globalement que vous voyez que les termes ont un sens. Et je me disais, psychiatre des mineurs, je me disais, pourvu que ça ne soit pas un psychiatre général qui aille à la mine et que le pédopsychiatre ne soit pas un psychiatre général qui aille à la mine. Ce qui veut dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de définir les termes. Moi, il y a des termes que je n'aime pas trop. Le terme de crise, par exemple, c'est un terme que je n'aime pas trop parce que derrière la crise, on met l'intensité du trouble, on met les besoins de contenance, on met des choses qui évoquent d'autres termes qui sont plus ambigus et qu'il va falloir peut-être, je crois, en termes d'offre de soins, un moment où les enveloppes sont contrôlées, il va peut-être nous falloir un peu définir un certain nombre de ces éléments pour ajuster nos outils. Je pense que le terme de souffrance psychologique aussi mériterait d'être précisé. Alors, on peut dissocier dans cette phase de transition deux choses, l'émergence de pathologies, et comme vous le verrez demain, on vous en parlera, puisque je crois que Marie-Odile Krebs va vous en parler. Et puis une question, moi, qui va m'intéresser, c'est-à-dire que l'action de l'adolescence, ça ne se décide pas à l'adolescence. C'est un processus qui se construit, sur lequel on va voir que, d'une part, des pathologies de l'enfant vont rebondir, résonner. Et puis, d'autre part, il y a des facteurs de vulnérabilité. On voit que la question de la prévention, la question de l'intervention vont se poser. Quand on va, bien évidemment, articuler ça avec comment on organise nos dispositifs de soins, il va falloir réfléchir que les frontières, en tous les cas, entre le mineur et le majeur, ne sont pas aussi nettes que celles que fixe la loi. Et j'ai envie de vous dire, et j'aurai un message, et après, on peut commencer la discussion, que, bien évidemment, il y a des discontinuités entre l'enfant et l'adulte. Dire que c'est la même chose, ça serait absurde. Mais il y a de la continuité. Et qu'on a intérêt à regarder la continuité en respectant, bien évidemment, les différences. Mais cette continuité, elle est importante, notamment à un moment où se posent des questions en santé mentale sur l'offre de soins, sur la priorisation de nos budgets, sur des choses qui sont des enjeux importants de nos organisations. Alors, je vais passer vite. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire la durée, quand ça commence, quand ça se termine, cette phase de transition. C'est pour vous dire que, au moins, le juridique nous aide, il dit 18 ans, mais vous savez qu'on peut être émancipé à 16, parfois à 24, on n'est pas majeur. Donc il y a des questions qui sont posées sur la durée, la définition de cette phase, et beaucoup de mythes, beaucoup de croyances qui tournent autour de ces questions de l'adolescence. On l'a un peu évoqué, mais la notion de crise. Alors, tous les adolescents font des crises, tous les adolescents, il faut que ça booste. Donc, un adolescent qui ne booste pas, qui est à l'école, qui aime bien ses parents, il faut se méfier, il faudrait qu'il voit un psychiatre très vite. Et y a un problème dans l'accès aux soins, parce que finalement, on n'est que des médecins, les pédopsychiatres, même les psychiatres généralistes sont des médecins. C'est-à-dire qu'on a des compétences, mais on n'a pas toutes les compétences, et qu'il va falloir aujourd'hui, et la question du partenariat, pour que ça ne meure pas trop tôt, puisque j'ai compris que ça devait mourir, en tout cas du côté du PACA, il faut qu'on arrive à bien définir quels sont nos outils et ce qu'on en fait. Donc il y a des éléments aussi en matière. Après, il y a des réalités, bien évidemment. Ces réalités, elles tournent sur la question notamment de l'émergence des troubles. C'est la période de la vie ou en santé mentale, c'est la période où il y a le plus d'émergence, c'est-à-dire d'incidence des troubles, pour prendre un terme épidémiologique. C'est un problème aussi, on le sait, où il y a une aggravation de pathologies antérieures. Et puis, il y a bien évidemment un enjeu, je ne m'y attarderai pas forcément, mais qui est un enjeu majeur. C'est la période de la vie où il y a le plus de tentatives de suicide. Donc, la question de la mortalité est quand même sous-jacente à ces questions, avec des vraies difficultés. À savoir que c'est une symptomatique bruyante, ça emprunte au développement ordinaire, pour ne pas dire normal. D'où les enjeux qui me semblent extrêmement importants pour se repérer dans cette transition-là, d'avoir des indicateurs de pathologie. Il faut savoir de quoi on parle quand on dit qu'un adolescent va mal. Et pour ça, il faut définir, et ce n'est pas toujours simple, avoir des indicateurs sur lesquels on va pouvoir travailler quand on va faire de l'offre de soins. Qui mettons dans une unité de crise? Qui mettons dans un CATTP? Qui adresse-t-on au psychiatre, tout simplement? Quel est le rôle des uns et des autres? Et ça, c'est un enjeu majeur, encore une fois, quand on a une réflexion qui se veut aussi un tout petit peu médico-économique. Quelques chiffres, ça a été dit, et je ne m'étonnerai pas de l'accord que nous avons avec Nathalie Godard dessus. Il y a une forte idée quand même de la continuité. Je crois que c'est ça que je voudrais interroger avec vous. Quand on regarde tous les troubles psychiatriques confondus, schizophrénie, troubles bipolaires, tout ce qui impacte fortement la santé mentale en général, on s'aperçoit que globalement 40-45% débutent avant l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que les enjeux aujourd'hui du repérage à l'adolescence, de repérer dans ces moments d'émergence pour les pathologies émergentes ou d'aggravation, ça va être aussi de se dire que c'est là où il ne faut pas les rater, c'est là où il faut qu'on ait des indicateurs, c'est que le gamin qu'on va repérer à l'adolescence, la problématique du suivi, elle va durer très longtemps. La question de la récidive, la question aujourd'hui de la rechute, voire de la persistance, est un enjeu extrêmement important pour l'avenir. Quand on regarde sur le plan épidémiologique, on a tendance à... L'adolescence est devenue quelque chose dont on a beaucoup parlé, cette phase de transition. C'est encore une fois plus vraiment où elle commence, ni où elle s'arrête. Ce qui est assez particulier, c'est quand on a les données de l'épidémiologie, on n'a pas plus de pathologies aujourd'hui. Ils vont pas plus mal aujourd'hui, ou globalement, si on prend des chiffres qui sont liés à l'incidence. Alors c'est vrai qu'on en a peu en France, c'est un des problèmes, mais globalement, les données internationales nous disent pas qu'ils vont plus mal. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il y a une aggravation qualitative, c'est-à-dire que ceux qui vont mal vont plus mal. Donc il n'y en a pas plus, mais ceux qui vont mal vont plus mal. Donc il y a un problème là, qu'on va pouvoir soit dans l'accès aux soins, soit dans la perte de système de repères, peut-être intermédiaire entre le soin et autre chose. Et ce qui est assez marqué également, quand on regarde, c'est qu'il y a une augmentation des inégalités, c'est-à-dire une différence extrêmement nette. Et on va voir que cette différence entre ceux qui accèdent aux soins et ceux qui n'y accèdent pas augmente, et que les inégalités en termes de prise en charge augmentent dans le temps. D'où les enjeux de repérer précocement, parce qu'effectivement, on voit que l'offre de soins, elle rend aujourd'hui plus inégale l'équité, alors à un moment où on parle d'équilibre, etc. Le seul point qui sort très clairement aujourd'hui sur le plan de l'épidémiologie, c'est que les formes débutent, on va dire, des pathologies qui sont habituellement identifiées à l'adolescence débutent de plus en plus tôt. Donc cette phase de transition, elle s'étire progressivement. Et on parlait avant de pathologies entre le 14 et 20 ans. On est très clairement aujourd'hui, on le voit nous, dans nos expériences, dans le pôle que je pilote au sein de l'hôpital Charles Perrin, avec des pathologies qui arrivent entre 10 et 14 ans. La tentative de suicide, les alcoolisations, les troubles des conduites alimentaires. Donc cette précocisation est un vrai phénomène aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des structures de soins qui étaient adaptées, et je pense par exemple aux unités d'hospitalisation pour des adolescents âgés, aujourd'hui doivent aussi s'orienter pour pouvoir accueillir des formes de plus en plus tôt de ces troubles. La discontinuité, elle est marquée, je l'ai dit, par la loi, elle est marquée, alors je vais saluer les familles aussi parce qu'on en parle, mais parce qu'effectivement, l'engagement, c'est la réponse, au-delà de la responsabilité et de l'autorité parentale, c'est le travail avec les familles. Mais quand on regarde, par exemple, si la discontinuité est marquée par l'âge, c'est pas aussi évident que ça, puisque le SROSS, il dit, c'est 0,18. La pédiatrie, elle dit, c'est 0,15. Il y en a qui vont à 20, il y en a qui vont en dessous. C'est-à-dire que l'âge, on le voit, est définit pas forcément cette période de transition en termes d'organisation des soins. Il y a des facteurs que je voudrais quand même souligner. C'est qu'on a évoqué, Marie-Rose Moreau l'a évoqué ce matin, la question du découpage. Daniel Sechter le reprenait. Moi, je suis toujours très... Moi, je suis un psychiatre généraliste aussi. Je m'occupe plus des adolescents et des enfants. Mais je crois que l'idée de découper, on va finir par avoir des enfants, des psychiatres du petit bébé, du moyen bébé, du grand bébé, du petit enfant, du moyen enfant, etc. Et ça, c'est quelque chose qui augmente, qui va à l'encontre aujourd'hui de ce qu'est le courant actuel. C'est-à-dire de penser cette continuité aujourd'hui des pathologies. J'ai un peu d'expérience, ce qui veut dire que j'ai un peu d'âge, ce qui veut dire que mes patients ont un peu d'âge, ce qui veut dire que tous mes patients, ils ont plus de 20 ans maintenant aujourd'hui, de ceux que j'ai suivis il y a 15 ans. Et que cette question-là, aujourd'hui, est un enjeu important et que je crois qu'il faut se méfier. Autant l'idée d'une formation en pédopsychiatrie me paraît essentielle, autant il faut se méfier de ces clivages, de ce découpage des formations qui rencontrent des difficultés de communication, des difficultés d'organisation. Il y a aussi la même chose dans les découpages aujourd'hui de tel qu'a été pensé la sectorisation dans les années 70, où il y avait les intersecteurs, trois secteurs adultes, et puis les secteurs adultes, qui a fait que les organisations des années 70, qui avaient de bonnes idées en termes de proximité, etc., je ne remets pas en cause la sectorisation de la politique territoriale, mais a fait que les organisations étaient différentes. C'est-à-dire que ça a été évoqué tout cet après-midi. On a des organisations différentes parce qu'on a un hôpital de jour pour une population plus grande, des déplacements qui sont plus importants. Ce qui veut dire que les organisations en adultes et en enfance n'ont pas fait grand-chose pour se rejoindre et que ça a augmenté la notion de discontinuité et cette notion de rupture qui me semble, moi, un enjeu majeur aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une transition sans une spécificité, mais c'est une zone de danger au sens du risque de rupture. Tout va aujourd'hui pour nous dire... C'est la continuité fondamentale à envisager. Alors, on dispose, vous le savez, en psychiatrie, d'un certain nombre d'outils. Dans les outils que nous en avons deux qui sont importants, qui sont les outils... On a maintenant des données qui nous montrent que les patients qui présentent des pathologies psychiatriques qu'on a suivies pendant des années, d'abord, un certain nombre, il y a une persistance. Je vous en montrerai un ou deux exemples. Beaucoup, c'est le cas des troubles de l'humeur récidive. Et puis, la notion de handicap retardé de handicap pour la vie entière est une notion qui est importante. Ce qui va dans l'idée, contre l'idée qui est une idée parfois trop facilement admise, qu'un adolescent qui va mal, ça va passer après l'adolescence. Ben, la réalité, c'est pas ça. Un adolescent qui fait une dépression entre 10 et 20 ans, et vous voyez que j'ouvre large, il a 75% de chances de récidiver dans les 5 ans qui viennent. Ça veut dire que cette notion-là, on doit l'avoir dans notre organisation des soins, et c'est là où la rupture de communication entre psychiatrie de l'enfant et psychiatrie de l'adulte est très délétère pour les enfants et pour les familles, parce que à 12 ans ou 18 ans, on dit on va où maintenant? Et donc il y a une errance, mais lui, la pathologie chez le jeune, elle risque de redécompenser et de redébuter plus tard. Donc il y a un enjeu important, et je vous le montrerai, je pense que c'est sur ce type d'études, je vais essayer de vous montrer très rapidement quelques exemples des études de cohorte où on suit des populations cette fois-ci en prospectif. On va regarder des populations en population générale pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui interviennent sur la survenue des troubles mentaux et notamment quels sont les facteurs qui contribuent au moment de la survenue, mais quels sont les facteurs qui contribuent à la persistance des troubles mentaux, et quelles sont les périodes de la vie où il y a intérêt à fixer des interventions, les périodes de vulnérabilité. Ces périodes de vulnérabilité, on commence à les identifier en réfléchissant bien évidemment au processus de ce qui est la prévention, et les liens prévention-soins sont des choses, alors qu'on dit beaucoup prévention, on dit il faut faire de la prévention, en fait on fait peu de prévention, en tout cas c'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes systèmes qui font de la prévention et du soin. Et là, il va falloir articuler des choses, parce que prévenir, c'est peut-être déjà un peu soigner, si on peut faire imaginer que les enjeux qu'il y a aujourd'hui à empêcher des pathologies d'arriver. Et puis la prévention secondaire est tout aussi importante, et c'est là où longitudinal est important, parce que quand on fait un trouble, quelle que soit la nature de ce trouble, les enjeux sur le retentissement en termes de handicap, de fonctionnement social, on a parlé de l'école, on peut parler du travail, de l'insertion professionnelle, on peut parler du fonctionnement relationnel, social, etc., sont considérables. Et je reprends juste cette diapo pour rappeler que quand on parle de pathologie mentale, si on arrive à déterminer un seuil, on est face à une pelote de laine où vous avez des processus qui surviennent à un moment donné de la vie, mais vous avez un handicap qui va être généré par le phénomène, et puis vous avez des traits qui ont aussi préexisté, qui constituent soit la vulnérabilité, soit l'état prémorbide, et que finalement, quand on est face à une pathologie mentale, on a cette espèce de pelote de laine qui est un peu mélangée, dans laquelle il va falloir tirer des fils, parce que, bien évidemment, les enjeux de la prise en charge, les enjeux du traitement et la façon dont on va évaluer la situation méritent de séparer ces différents fils. Alors, à l'hôpital Charles-Perrins, on s'intéresse pas mal, et je vais juste vous illustrer par un certain nombre au trouble du neuro, ce qu'on appelle le trouble de neurodéveloppement. On parlait de l'institut. Alors, nous, on n'a pas fait d'institut à Charles-Perrins, mais par contre, on a structuré, à la fois dans le cadre d'un centre ressources autisme, des structures un peu d'évaluation qui ne sont pas des missions d'expertise, mais plutôt d'appui. Et puis, on s'intéresse pas mal à la question des troubles de l'attention. Et je vais juste essayer de vous montrer que les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans le dépistage et les enjeux qu'il y a aujourd'hui dans la perspective longitudinale et développementale. Ça, c'est des données anciennes, les données sont récentes, mais c'est une étude de cohorte ancienne qui vous montre juste, et c'est très simple...
Plus dans le micro, apparemment.
Pardon. Et qui vous montre juste, et c'est très simple à lire, que quand on a les enfants qui ont eu un TDAH, qui ont eu un TDAH repéré, identifié entre l'âge de 10 ans, quand on regarde ce qu'ils deviennent à 25 ans, on s'aperçoit qu'il y a encore à peu près 15-20% des adultes qui ont encore un TDAH. Donc ça n'a pas disparu après 20 ans. Ça veut dire qu'il y a donc une persistance d'un certain nombre de catégories du trouble lui-même. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder, quand on regarde les données du dessus, quand vous regardez des enfants, là, vous avez les données symptomatiques et non plus diagnostiques, on n'a plus le diagnostic, mais la persistance de symptômes, elle persiste dans 71% des cas. Et quand vous regardez la question du handicap fonctionnel, les sujets adultes, même s'ils n'ont pas le diagnostic, ont un handicap dans 2/3 des cas. C'est-à-dire que le repérage précoce d'un trouble, alors ça c'est fait sur le TDAH, et encore une fois c'est une illustration, je ne suis pas là pour centrer sur le TDAH, mais pour vous montrer que le repérage ici précoce, c'est un des enjeux non seulement en termes d'un traitement persistant, c'est un enjeu en termes de prévention aujourd'hui au niveau clinique, et puis c'est un enjeu aussi en termes de prévention en matière fonctionnelle. Donc l'enjeu du diagnostic et l'enjeu de se dire, attention, l'enfant que je vois à 8 ans, à 12 ans, je ne vais pas l'abandonner à 12 ans, parce que l'enjeu, ça sera de le voir à 18, à 25 et à 30, et donc d'assurer la continuité développementale de mon accompagnement, ou en tout cas de faire en sorte qu'il puisse être accompagné sur une période prolongée. Et quand on regarde ce qui est cette espèce d'avalanche développementale des troubles, on s'aperçoit que vous voyez qu'on part avec souvent une pathologie qu'on peut identifier, pour laquelle on a des stratégies diverses et variées, et que quand on voit au cours du temps, quand je vous disais qu'au fur et à mesure les choses se compliquent, c'est qu'on va passer d'une pathologie un peu identifiable, avec des problèmes de scolarité et des relations, à des problèmes sociaux, à des problèmes de complications qui vont intervenir au cours du temps, à l'adolescence, et puis à l'âge adulte, quand on voit ces adultes et qu'on regarde les données, je vais vous en montrer quelques-unes, on s'aperçoit que c'est des adultes qui ont de multiples problèmes, qui sont des problèmes sociaux, qui sont des problèmes souvent médico-légaux, qui sont des problèmes de vie personnelle et sociale. Et d'où les enjeux, c'est de réfléchir, et c'est le sens que je veux donner. Vous voyez que la transition, elle ne se fait pas là. Elle se fait dans la compréhension aujourd'hui qu'il y a des liens qui se tissent et qu'on peut, par des stratégies d'intervention ciblées et centrées, éviter que cette avalanche se produise. Pour vous montrer juste, ça vous paraît, c'est sûrement un peu une évidence pour vous, c'est l'idée que quand on regarde des enfants qui ont eu un TDAH, qu'on les voit, là c'est des petites cohortes, c'est une étude un peu ancienne, qu'on regarde la fréquence des accidents de voiture, on s'aperçoit qu'ils ont un taux beaucoup plus élevé qu'en population ordinaire, d'accidents de voiture et de problèmes, puisqu'on parlait d'orthopédie, Ça, c'est une étude qu'on a menée à Bordeaux. On est allé à la maison d'arrêt de Bordeaux. Et on a juste regardé chez des jeunes prisonniers la prévalence du TDAH. La prévalence du TDAH, aujourd'hui, chez des prisonniers qui étaient âgés entre 18 et 24 ans pour une incarcération, on s'est rendu compte qu'elle était 5 fois supérieure à la prévalence du TDAH en population contrôle, en population générale. Ce qui veut dire que là, il y a un facteur de risque. Alors, on ne va pas expliquer la délinquance, on ne va pas vider les prisons en traitant le TDAH. Mais on peut quand même se poser des questions, quand on a un TDAH, de la prévention du risque, du juridique derrière. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est pas sur cette diapositive, ce qu'on a observé, c'est que ceux qui avaient un problème de TDAH, ils avaient des problèmes avec la loi en moyenne 2 à 3 ans plus tôt que ceux qui ne l'avaient pas. Ce qui veut dire que non seulement c'est un facteur de risque de survenue, mais c'est un facteur de risque de survenue plus précoce de ces problèmes-là. Cet exemple, il nous montre simplement encore une fois que les enjeux, ces enjeux de la prévention, ces enjeux de la reconnaissance et de penser les choses dans une dimension diachronique et non pas seulement par des photographies successives, c'est des enjeux que, parce que ça, on peut quand même, au moins sur un certain nombre de facteurs, intervenir. Et pour mes collègues adultes, ils le savent, je pense, parfaitement, quand on regarde le développement de la toxicomanie, et là aussi, ça revient à l'adolescence. Chez les enfants qui ont un TDAH, il n'y a pas de problème de toxicomanie au départ. Quand on regarde l'émergence de la toxicomanie, qu'on regarde ce qui se passe à 30 ou 40 ans, on s'aperçoit que le risque de développer une addiction, quelle qu'elle soit, j'inclus même le tabac, allez, une petite addiction, mais j'inclus le tabac, allez, de développer une addiction est 4 fois supérieur en population qui a eu un TDAH par rapport à une population de contrôle. Donc vous voyez que cet enjeu-là, il est fondamental, c'est-à-dire qu'il doit nous dire, attention, la transition, la vraie transition, me semble-t-il, le risque de la transition, c'est la rupture de soins. C'est la perte de vue. C'est le perdu de vue. C'est ça le danger aujourd'hui de la transition. Et c'est pour ça qu'il nous faut travailler pour avoir des capacités à combler, à éviter cette perte de vue. Ça, je vais vous parler parce que les directeurs d'hôpitaux, ça leur parle, ça. Mais il faudrait que ça parle aussi aux ARS. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Le coût médico-économique de la non-prise en compte. Et ça, c'était fait aux Pays-Bas. 1,5 milliard d'euros par an, ça coûte. Ça coûte. Et quand on regarde comment se répartissent le 1,5 milliard, on s'aperçoit, si vous regardez ici, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les services sociaux. Alors bien évidemment, on est dans des coûts directs et indirects. Et on s'aperçoit que la non-prise en compte du handicap, que le handicap lié à la pathologie, sur lequel on a quand même des capacités d'intervention en prévention, coûte la moitié de ça. C'est-à-dire qu'il y a 750 millions d'euros qui partent aujourd'hui parce que les enfants n'ont pas été pris en charge. Alors, avec toute la prudence qu'il faut avoir, on les dirait pas tous, il faut être extrêmement humble dans nos approches, mais c'est juste pour dire que ça a un coût, tout ça. Et je rappellerai que dans l'autisme, le rapport du Conseil économique et social, qui montre très clairement que ne pas traiter, ça coûte plus cher que traiter. Voilà, ça, on le sait, ne pas traiter, ou pas bien traiter, on peut dire aussi, parce qu'il y a quand même la nature du traitement qui intervient dans ces modalités-là. Le problème, c'est que la transition, elle est en rupture parce que, par exemple, pour le TDAH, pour faire un diagnostic de TDAH chez une personne adulte, je parle avec toute l'amitié que j'ai pour mes collègues d'adultes, c'est un diagnostic qui est encore mal fait. C'est souvent des pédopsychiatres qui développent aujourd'hui des consultations. Et moi, on a à Charles-Perrins une consultation pour adultes dans notre centre un peu de référence sur les troubles de l'attention, une consultation pour adultes parce que, d'une part, ça ne se faisait pas ailleurs, parce qu'il y a une certaine peut-être expertise que nous avons pu développer, mais qui pose le problème aujourd'hui de la reconnaissance beaucoup plus vaste de ces pathologies. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de travailler dans des trajectoires. Est-ce que je vais terminer dessus? Je vais essayer de finir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Parce que,
7 minutes.
J'ai 11 sur mon...
7.
9.
8.
Bon. Allez, on va essayer je vais essayer de terminer relativement rapidement mais juste pour vous dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas seulement raisonner en termes de pathologie, de prévalence, c'est de raisonner en termes de trajectoire. Et moi, ça me semble important à la fois dans une compréhension de recherche. Je voudrais quand même souligner l'importance que la recherche, il n'y a pas de recherche molle ou dure. Moi, je dis ça pour Nathalie, puisque nous connaissons depuis longtemps. Je pense que la recherche, elle est aussi, dans tous les domaines, c'est aussi de pouvoir réfléchir dans un champ de trajectoire. Je vous ai mis deux diapositives pour vous montrer celle-là sur le travail qui est mené, par exemple, à Montréal, qui s'est intéressé au problème des troubles des conduites, de la délinquance et des personnalités antisociales, qui ont un surcoût énorme. Et l'équipe de Richard Tremblay, notamment, et d'Éric Lacourse, avec qui nous travaillons pas mal, s'est intéressé aux trajectoires. Ils se sont aperçus qu'il y avait des enfants chez qui l'agressivité pouvait apparaître tôt, mais allait progressivement disparaître. Et puis chez des sujets chez qui, au contraire, elle va se maintenir, et que ce sont deux groupes, deux trajectoires, deux vulnérabilités sans doute qui sont différentes, et que les besoins de soins, les besoins d'offres de soins, les besoins d'accueil ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes entre ces trajectoires-là. La même chose a pu être observée, ça, c'est sur les problèmes des symptômes attentionnels, où on voit qu'il y a des enfants qui gardent des trajectoires élevées avec des hauts niveaux de troubles de l'attention, des enfants qui, on est en population générale, qui eux n'évoluent pas, puis des enfants qui se croisent, ce qui veut dire que là aussi, la notion de trajectoire clinique est importante à prendre en considération parce que les besoins de soins ne sont pas les mêmes. D'où l'enjeu aujourd'hui de travailler sur la notion de trajectoire, et il faut l'étendre, moi j'aime bien le terme de parcours patient, parce que finalement, il correspond à cette notion de trajectoire, c'est-à-dire de donner une troisième dimension à souvent ce qui est simplement la notion de trajectoire transversale. Alors, la transversalité, le partenariat, c'est bien. Je suis pour le partenariat. Alors, vous savez qu'à multiplier les partenaires, on peut prendre des risques, mais il faut être clair qu'il est clair qu'aujourd'hui... Mais le partenariat, c'est bien. Mais si on ne veut pas qu'il meure, il faut que chaque partenaire soit bien identifié. Sinon, on perd les limites de nos compétences. Et ça vaut pour le territoire. Et je vous en dirai peut-être un petit mot. Et puis, bien évidemment, inclure la notion de trajectoire développementale avec... Aujourd'hui, des questions qui sont posées, quels sont les bons indicateurs? Est-ce que, par exemple, la récidive, la réhospitalisation, c'est un bon indicateur? Le handicap, le recours aux soins ou la perte d'autonomie? On a aujourd'hui à travailler encore. Hein. Je vous présente des idées sur lesquelles, à mon avis, on a à travailler. Et j'essaierai de vous montrer vite les leviers. J'ai bien aimé le travail qui a été mené par Claude Maresco, à l'hôpital du Vinetti, où ils ont fait ce travail, je crois que c'est en 2011, me semble-t-il, je parle sous contrôle des gens du Vinetti ici présents, où il y a eu un vrai travail de réflexion sur une méthodologie statistique. Ça a été fait chez l'adulte, où ils ont réfléchi aux trajectoires et regardé quels sont les facteurs qui influent les différents types de trajectoires de patients. Pas seulement de voir le problème du schizophrène ou du bipolaire, c'est de voir comment il y a des bipolaires qui évoluent bien, des bipolaires qui évoluent mal, quels sont les facteurs qui vont jouer là-dessus, et quels sont les recours qu'on va pouvoir mettre à un niveau hospitalier ou à un niveau territorial sur ces enjeux-là. Alors la difficulté, c'est bien évidemment, pour travailler ces trajectoires, c'est de savoir qui fait quoi. Alors là, c'est le problème, parce qu'il y a des adultes, on dit, 17 ans, bon, c'est un problème d'adulte, hein. Sauf que 17 ans, quand il fait 1m40 et 37 kilos, on se dit, oh non, il est tout petit, on ne peut pas le prendre, et puis 14, ça peut être un problème d'enfant, mais c'est un problème aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir identifier qui fait quoi. Moi, je suis pour le virage à l'ambulatoire, pas en pédopsychiatrie, puisqu'on ne fait que de l'ambulatoire. Vous avez vu le problème des lits. Donc, la question ne se pose pas pour les enfants, mais il y a un enjeu du virage à l'ambulatoire. Sauf que quand on passe à l'ambulatoire, on augmente les partenaires. Je ne vais pas vous reparler des facteurs de risque. Par contre, on augmente le nombre de synthèses, le nombre de réunions, et là, on finit par passer de temps entre partenaires, et puis on n'a plus le temps de voir les enfants. Donc il faut des moyens de etc. C'est le même problème pour la question de l'inclusion. Je suis bien évidemment très favorable à la question de l'inclusion scolaire dans le champ du handicap. C'est un enjeu majeur. Sauf que l'inclusion, c'est tout un travail derrière de formation, de sensibilisation, de milieux très différents. On travaille avec des personnes avec autisme. Vous en parlerez, je pense, demain avec Catherine Doyen. Mais on sait qu'aujourd'hui, l'inclusion scolaire, c'est le travail avec les enseignants, c'est le travail avec les AVS, c'est le travail avec les chauffeurs de taxi, les profs de sport, les profs de piscine. C'est-à-dire que c'est un enjeu aujourd'hui qui fait que l'hôpital n'est plus centré sur sa consultation, mais va aller travailler. L'enjeu de la formation, l'enjeu de la sensibilisation, de l'explication, c'est du temps et c'est une difficulté. L'offre de soins, on en a déjà parlé, mais elle est bien évidemment extrêmement variable. On est dans un département qui a la particularité en Gironde d'avoir une très forte urbanité centrale et puis une très forte ruralité périphérique. Le Médoc, c'est magnifique. Je vous invite à y aller pendant les vacances. Et puis y aller dans les caves. Mais après, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux aujourd'hui d'inégalité territoire. Et puis, il faut se le dire, nous, au niveau de la psychiatrie, peut-être entre pédopsychiatres, on doit pouvoir se le dire, il y a encore des enjeux en termes de pratique. Aujourd'hui, que l'on soit en deçà ou au-delà des Pyrénées, il y a encore des différences de pratique. Et puis des niveaux d'articulation. Je voudrais aussi insister sur la question, ça a été évoqué ce matin, des temps d'attente en matière de fluidité, de soins, en matière de... Aujourd'hui, c'est vrai que les CMP sont aujourd'hui avec des listes d'attente beaucoup trop importantes. Et donc le problème, qui, notamment du fait du caractère parfois bruyant de l'accès via les urgences des adolescents, c'est d'arriver comment on passe des urgences à la Fondation Santé des étudiants de France qui fait un travail magnifique. Et je le dis sous contrôle parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, qu'on travaille avec R sur Adour, donc on a un lien assez fort avec eux. Donc, mais quand on est aux urgences, on a besoin d'une solution dans l'heure, dans la journée. Donc cette temporalité est importante, de la même façon, ce qui pose la question aujourd'hui du périmètre d'action des CMP et des CMPE1, c'est-à-dire quel périmètre d'action. La polyvalence qui était volontiers admise dans les années 70, elle est de moins en moins possible aujourd'hui, que la réactivité pour des adolescents, c'est pas la même que pour des 0-3 ans. La réactivité dans le cadre de certaines pathologies comme l'autisme, c'est pas la même que dans d'autres pathologies. Donc il va nous falloir réfléchir dans nos organisations territoriales aussi à comment... Je n'aime pas le terme de filiarisation, mais réfléchir ses parcours et ses trajectoires en fonction des pathologies. Je vais passer là aussi assez vite. C'est juste pour vous dire que dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire qui a préfiguré le GHT en Gironde, on avait listé les structures pour adolescents de Gironde. Donc il y en a des structures. Le problème, c'est comment on les fait fonctionner ensemble. Et comment on arrive à travailler sur cette temporalité du psychiatre qui était aux urgences, qui doit trouver une solution pour une consultation dans les 3 jours. Et c'est une réflexion qu'on n'a pas encore aboutie. Pourtant, vous voyez, on a des consultations, des hôpitaux de jour et des structures très différentes. Alors, il y a quelques outils. Je vais peut-être centrer le début de ma conclusion sur ça. Je pense qu'il y a des outils. C'est peut-être ça que je voudrais réfléchir avec vous. Il me semble d'abord important qu'il faut travailler sur la question du diagnostic. Et le diagnostic, ce n'est pas seulement une photo. Il faut travailler sur la notion de diagnostic longitudinal. Mais il faut qu'en pédopsychiatrie, on se fasse un peu parfois contrainte à accepter, avec toutes les limites qu'il y a, de donner des outils dans l'évaluation. On ne peut pas aujourd'hui rentrer dans les dispositifs de soins sans qu'on ait une évaluation du diagnostic et au-delà du diagnostic sur le bilan fonctionnel. Donc cette notion me paraît importante parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir au moins... Le diagnostic, il va nous aider à avoir un peu de prédiction. Ce n'est pas pareil de poser un diagnostic de schizophrénie ou de dire que c'est un problème de corps au pied. Ce n'est pas la même stratégie. Donc le diagnostic, il va nous aider à proposer un projet. Ce projet, il doit être individualisé. Alors le sur-mesure, moi j'aime bien. Aujourd'hui, on va sans doute, dans 15 ans, 20 ans, vers une médecine plus individualisée. Ça sera vrai en MCO. Moi, je pense que ça sera vrai aussi en psychiatrie. Et en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est aussi bien dans le champ du handicap, dans le champ des pathologies psychotiques, dans le champ des pathologies de l'humeur, on va vers des projets individualisés. Le diagnostic, c'est aussi un outil de communication. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions, la catégorisation, on étiquette, etc. Mais si on ne peut pas communiquer sur les termes, si les professionnels, un professionnel d'enfant et un professionnel d'adulte ne peuvent pas communiquer sur les termes, même si on sait que ça évolue au cours du temps, on ne va pas pouvoir assurer cette continuité. C'est un outil donc, qui va de transmettre des données objectives. Aujourd'hui, il y a des leviers, je pense qu'on l'évoquait avec le directeur de Charles-Périens tout à l'heure, il y a des vrais leviers aujourd'hui qu'il nous faut utiliser dans cette continuité territoriale, transversale, mais aussi longitudinale. C'est les outils numériques. Alors, on dit que c'est des gadgets. Il y en a qui sont des gadgets, sûrement, mais je sais qu'on a des expériences actuellement qui ont été faites en gérontologie, et je ne parle pas de la psychiatrie, dans les Landes, qui étaient dans une phase expérimentale, qui, je crois, n'est plus dans une phase expérimentale, de plateformes numériques qui permettent une réactivité, qui permettent aussi d'adapter, de préciser la saisine d'une consultation, que faire en sorte que l'infirmière à domicile puisse avoir un avis très rapidement d'un neurologue, évite le recours aux urgences. Je crois que ces pilotages par les outils numériques me paraissent importants. Nous, on est en train de mettre en place, dans le champ des troubles des apprentissages et de l'attention, une structure un petit peu pareille, notamment en lien avec l'éducation nationale. Je crois que la télémédecine est sûrement un outil de demain aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter la territorialité seulement en envoyant les gens, quelle que soit la nature du professionnel. Donc il va falloir travailler de façon à ce que l'équité par rapport à l'accès aux soins soit faite, mais elle peut être faite aussi par des outils comme la télémédecine. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a parlé, l'expérience du Vinatier nous l'a montré, on peut faire du DIM longitudinal. C'est pas seulement rendre aujourd'hui des données sur quelles sont les pathologies que nous avons en PMSI, mais d'avoir un peu de travailler sur des outils statistiques un petit peu plus prévalents.
Là, il faut aller sur la vraie conclusion maintenant.
On va aller sur la vraie conclusion. Mmh. Je voulais vous parler de l'embrayage, mais on va aller vite. Je vais passer là-dessus donc, pour aller à la conclusion, pour vous dire que je ne crois pas qu'il y ait une spécificité de l'adolescence. Je ne crois pas. Je vous ai convaincu. Je crois qu'il y a des particularités, ça bouge beaucoup. C'est les conditions d'accès aux soins, les conditions de repérage sont plus compliquées. Je ne crois pas qu'il y ait une spécificité. Je crois que s'il y a une spécificité, elle ne vient pas des adolescents, en tous les cas. Elle vient de notre offre de soins, notre incapacité à éviter les ruptures dans cette offre de soins. Et je crois que c'est ça le problème des adolescents. C'est qu'ils sont perdus, et les familles avec sont perdues dans qui on parlait de la transparence, la lisibilité, où elle est. Je reviens sur l'idée de la perspective développementale. Je vous citerai par exemple de Gaotena qui a intégré du sanitaire, du médico-social. Gaotena, c'est une structure pour handicap et pour autisme qui se situe dans le Pays basque espagnol, dans la province du Guipuzcoa, et qui a intégré tout un ensemble de structures qui va du sanitaire au médico-social, au social. Et donc cette intégration-là sont des projets intéressants. On ne va pas parler que de moyens. Je veux juste vous citer pour terminer la question de... Il y a eu aux États-Unis en 2003 un rapport du Surgeon General, qui est un peu le directeur général de la santé américain, sur la santé mentale. Il disait, si j'avais très peu d'argent, il ne savait pas que ça allait arriver, mais en 2003, il ne savait pas encore. Il disait, si j'avais très peu d'argent, je mettrais tout l'argent du sanitaire, de la santé mentale, sur 2 périodes, le 3-8 ans et le 16-25 ans. Le reste, après, on va accompagner, bien évidemment, mais les enjeux aujourd'hui, majeurs, aujourd'hui en santé mentale, c'est le 3-8 ans, c'est-à-dire l'émergence de ces troubles développementaux, et le 16-25 ans, c'est-à-dire l'émergence des pathologies de l'adulte. Je vais terminer par trois petits mouvements d'humeur. Vous êtes en fin de journée, je me les suis autorisé. Vous allez voir, ça va aller rapide. J'étais ravi d'entendre ce matin par notre sénateur que les médecins, c'était important dans le soin. Donc ça m'a fait plaisir. Donc je me suis permis de rajouter cette diapositive pour rappeler quand c'est important que les médecins, et je me réjouis de ma présence aujourd'hui, travaillent ensemble avec les directeurs d'hôpitaux, avec les ARS, pour améliorer nos conditions d'œuvre. Je dois dire aussi qu'il me semble qu'il y a un autre problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les rapports succèdent aux rapports dans la complexité des rapports. Parce que sinon, on va finir par se demander. De rapport en rapport, on se dit, depuis 20 ans, on se dit qu'il faut collaborer, le partenariat, l'ASE, la PJJ, etc. C'est sûrement extrêmement important. Mais les rapports qui suivent les rapports, les plans qui suivent les plans, il y a sûrement des autres choses qu'il faut faire bouger. Et dans les choses qu'il faut faire bouger, il me semble, et ça sera vraiment la dernière, il y a peut-être un tout petit peu quand même de tendance à l'immobilisme. Et on a peut-être un tout petit peu de mal aujourd'hui à faire bouger parmi les professionnels, parmi les directions d'hôpital, à mettre un petit peu de rêve et de créativité. Je vous remercie de votre attention.
Félicitations. La conclusion était très intéressante, effectivement.
J'aurais dû en fait. C'est ce que j'ai pensé en fin de journée.